présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Deux sous le lit. Il lui caresse ses cheveux. Il est ému par le cadeau que lui a offert Valérie et se met à vraiment l'aimer. Il lui dit « Merci. Ça t'a plu ? Oui. Ça ne t'a pas choqué que j'ai fait le premier pas ? Non, car je n'aurais pas osé le faire. Et puis c'est beau pour un homme de mon âge de recevoir un pareil cadeau. » Je t'aime, tu sais. Je t'aime vraiment. Moi aussi, dit-elle, il l'embrasse. Une heure plus tard, il se promet de se revoir. Il la revoit le plus qu'il peut. Il ne sait pas pourquoi, mais cela ne le gêne pas de voir Valérie après sa femme. Il aime bien elle aussi, mais pas de la même manière. Son fils Pierre, qui est pris entre son amour pour Chantal et ce qu'elle représente, enfin les idées qu'elle représente. De temps en temps, il aimerait qu'elle soit un peu plus simple sans toutes ses idées. Mais il se dit que de toute façon, lorsqu'on aime une personne, on doit l'aimer en entier. On doit la prendre avec ses idées. La femme d'Émile, Fernande, entre ces deux hommes, se sent seule. Elle les voit chacun dans leurs pensées. Ils ne se parlent plus. Elle se trouve isolée. Émile doit partir pour affaires à Florence. C'est pour un grand marché. Et comme il doit y rester une semaine, il décide de partir avec Valérie. Il le lui dit un après-midi chez elle. « Ça te ferait plaisir ?»« Oui, je serais très heureuse de partir avec toi. »« C'est pour quand ?»« Dans 15 jours. »« J'ai juste le temps de prévenir mon mari. » Même au dîner, elle dit à son mari, c'est un homme grand, mince, carré, cheveux bruns. « J'ai un congrès de médecin la semaine prochaine et je pars en Italie, à Florence. Je serai absente une semaine. » « Tu aurais pu me le dire avant. » « Je m'en souvenais plus. » « Tu pars quand ?»« Mardi prochain. » « Bien. » Le lendemain après-midi, son père lui téléphone de son bureau.
« Valérie, j'aimerais te parler. Viens. »«
Bien, j'arrive dans une heure. » Elle va voir son père à son cabinet. Il la reçoit dans son bureau.
Mardi pour l'Italie.
Oui, qui t'a parlé?
Ton mari.
Je vais à un congrès.
Je sais. J'ai simplement une chose à te dire. C'est de faire attention. Tu as une famille, tu n'es plus vraiment libre et ce serait dommage de gâcher ta vie
pour deux fois rien. Mais père, ne dis rien, tu m'as compris. Vas-y si tu veux, mais fais attention et pense à ta famille. Maintenant laisse-moi. Tu es bien assez grande pour savoir ce que tu as à faire. Elle se lève, boudeuse, gênée.
Au revoir, père.
Au revoir. Et elle quitte le bureau.
Valérie partent pour Florence en voiture. Ils sont heureux, il fait soleil.
Ils prennent une chambre dans un grand hôtel. Émile va proposer ses produits à des industriels. Pendant ce temps, elle l'attend à l'hôtel. Lorsqu'il revient, il visite la ville et les environs.
Grand Flor.
Ils vont dans les restaurants aussi, manger.
Kochanie, chodź tu prędko. Mademoiselle Witt, le peignoir, tout de suite. Zobacz, no jak ty się urządziłeś.
On visite la ville, les environs. La nuit, ils font l'amour, oublie tout. J'ai passé vraiment une semaine de rêve.
Thank you.
puis c'est le retour, la ramener chez elle, avant qu'elle ne sorte de voiture, elle lui demande « Tu as été heureuse ?»«
Oui. »
Elle lui dit « Ça va être difficile maintenant de reprendre sa vie. On se revoit quand ?»« Téléphone-moi. » »« Que va dire ?»« Que vas-tu dire à ton mari pour le séminaire ?»« Ne me pose pas de questions. Ne te fais pas de soucis. » Lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve sa femme au salon qui lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Roland a eu un accident de voiture et il est mort. Il avait volé une voiture. » Il était poursuivi par la police et la voiture s'est jetée contre un mur. Tu aurais dû m'envoyer un télégramme. Je l'ai appelé que ce matin. Ça s'est passé où? Du côté de Toulon. Et il est où? Sûrement que la police va nous faire venir là-bas. Et nous verrons avec eux ce que nous devons faire du corps. N'a pas de peine, il n'aime pas son frère. Ils étaient tellement différents tous les deux. Roland impulsif, primaire, violent, méchant. 24 heures plus tard, il a été convoqué à la police de Toulon. Il y est allé, on lui a montré le corps, les objets qu'il portait sur lui. Le commissaire, petit, maigre, lui pose quelques questions. Que faisait-il dans la vie? La dernière fois que je l'ai vu, rien, mais cela faisait 15 ans que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Il était spécial, impulsif, et faisait ce qu'il avait envie de faire. Pas d'amis? De petits amis? Je ne sais pas, nous n'étions pas très intimes. Vous prenez le corps? Oui, je vais le faire enterrer à Lyon, nous avons un caveau. Vous savez que vous avez à payer la voiture? Oui. Tout a été fait, l'enterrement a eu lieu dans la plus stricte intimité. Le temps passe, passe. Émile et sa femme se sont obligés de recevoir Chantal et ses parents, vu que Pierre continue à fréquenter la fille et à aller chez eux. Fernande soupire en annonçant à Pierre. Je fais vraiment ça pour toi. Un vendredi soir, Pierre est allé chercher Chantal et ses parents. Ils sont reçus à dîner et à passer la soirée ensemble. Fernande a mis une robe d'intérieur beige et Émile un costume marine. Ils attendent au salon. L'on a sonné à la porte. La bonne va ouvrir. ce sont eux, elle les mène au salon. Pierre accompagné de Valérie et des parents. Émile et sa femme voient qu'ils sont habillés en jeans délavés et sales avec des vieux pulls et portent des baskets. Une fois que Pierre a fait les présentations, sans qu'on leur dise rien, ils vont s'avachir dans des fauteuils. De Chantal dit à Émile,
tu n'aurais pas du whisky?
Émile est surpris qu'on le tutoie.
Oui, bien sûr.
Et il va au bar chercher des bouteilles de whisky et des verres. Il se dit, boire du whisky avant dîner, mon Dieu! Et il va les servir. Sauf pour lui et sa femme, la mère de Chantal, Fernande.
Vous avez une jolie robe, mais moi j'aime mieux le simple. C'est trop voyant, riche.
Fernande lui dit,
je ne l'ai pas payé bien cher, vous savez, peut-être même moins cher qu'un jean.
Chantal lui dit, il lui dit,
oui, mais le jean, c'est passe-partout.
Après, il passe à la salle à manger. On leur sert le potage. La mère de Chantal dit,
moi, la cuisine française, je ne supporte plus. Je prépare le couscous. Ah, la cuisine africaine aussi.
Fernand lui dit, pourtant la cuisine française est censée être la meilleure du monde. Le père de Chantal dit,
des idées, tout ça, de nationalistes, tout ça, dépassé.
Émile fait, ah, bon. Puis le père de Chantal parle des cultures des pays exotiques tellement enrichissantes et belles.
Nous n'avons rien, mais absolument rien inventé.
Fernand demande à Chantal,
quelle étude faites-vous?
Pas grand-chose pour le moment. L'important, c'est de manifester. Lutter contre le gouvernement fasciste.
Quel gouvernement fasciste?
Celui que nous avons là, en ce moment, en France.
Il est de droite, donc facho. Il faut tout faire pour le déstabiliser, même que la France s'effondre.
Vous voulez le malheur du pays parce qu'il est gouverné à droite?
Oui, parce qu'un pays gouverné à droite est un pays facho, nationaliste.
Ils sont allés au salon, ont continué à discuter. Fernande est assise à côté de la mère de Valérie et lui demande,
que pensez-vous que mon fils voit si souvent votre fille? Elle fait ce qu'elle veut.
Mais compte-t-elle se marier plus tard?
Nous ne voyons pas les choses ainsi. Nous sommes pour le concubinage.
Ah?
Oui, depuis 68, le système familial n'a plus sa raison d'être. On vit ensemble, c'est tout.
Bon, fait Fernande. Émile a parlé au père de Chantal qui lui a dit la même chose. Chantal dit à Pierre, « Plus tard, je veux vivre qu'avec un mec qui a les mêmes idées que moi. Surtout pas un bourgeois et nous n'aurons pas d'enfants. On va en adopter un noir et un vietnamien. » Émile a entendu. Pierre ne dit rien.
Une fois qu'ils sont partis, Émile dit à Pierre, « Ils sont bêtes, arriérés. 68 ans, tu as vu leur façon de parler? Moi, je préfère le couscous. Les banlieues par-ci, par-là, leur culture formidable. Pff, dire que ce n'est que la droite qui est la cause de la croix et la bannière, c'est exagéré. C'est la mairie de Vénissieux qui a voulu à tout prix sa jupe. Avant qu'elle ne soit finie, on se posait déjà des questions, car personne ne voulait y habiter.
Un journaliste a demandé au maire « Qui on va y mettre ?» Puis parce que personne veut y aller, il a répondu « On y mettra des Vietnamiens. »
Bon, passons. Je te dis et je te répète, tu fais fausse route. Ce sont pas des gens pour toi, c'est des marionnettes 68ardes. Laisse tomber.
Mais j'aime Chantal, père.
Fais comme tu l'entends.
Dans la nuit, Émile est réveillé. Il a la gorge serrée, le cafard. Quelque chose ne passe pas. Il soupire et se dit. Toutes les personnes que j'ai connues du temps de ma jeunesse ont disparu. Mes parents, mon frère, Patrick, Gérard, Jérôme. Il ne me reste plus rien. Plus rien. Il sent sur sa poitrine la croix de Patrick. Maintenant que les personnes qui ont accompagné ma jeunesse sont mortes, c'est comme si je commençais une autre vie avec d'autres personnes. Il soupire. Que sont devenus mes rêves de jeunesse? Envolés, il n'a eu raison de moi, mis dans le moule, pour mes amours, le travail, la famille. La patrie. Je suis entré dans le moule et ne peux en sortir. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il m'arrive de me sentir bien. Pourtant, il y a une chose qui est en dehors des règles, c'est Valérie. Mais est-ce vraiment en dehors des règles? Cela fait bien et bon pour son standing qu'un homme de mon âge se mettent à avoir une maîtresse. Quelque chose me dit que je n'ai pas à être fier de ce que je suis devenu. J'ai tout renié de ce que j'aimais, mes préférences sexuelles, mes amitiés, mes désirs de création. Quelque chose. Le temps est venu que je fasse quelque chose en mémoire de ce que j'étais pour ne pas renier tout à fait ce que j'étais.
je décide de prendre 2 heures de temps par jour pour écrire. Écrire en roman, oui, en roman, mais qui soit à moi, comme je l'avais décidé avant. Essaye de se rendormir, satisfait et excité de sa décision. Le lendemain matin, il se lève 2 heures plus tôt. Et désormais, il se lèvera 2 heures plus tôt pour s'enfermer dans son bureau pour écrire. Là, en robe de chambre, par-dessus son pyjama, assis à son bureau. Il a pris dans le tiroir du bureau un cahier neuf de 300 pages. Il l'ouvre. L'odeur du papier neuf l'excite. Il prend un stylo à billes qui écrit fin. Comme les lignes sont serrées, il écrira une ligne sur deux et que sur la page de droite. Il veut écrire quelque chose de fort, de profond. L'après-midi, tout excité, c'est sa maîtresse au salon et lui dit: j'ai décidé d'écrire. Ah, c'est bien. Tu veux écrire quoi? Voilà. Je me suis réveillé cette nuit triste, démoralisé, en pensant que j'avais tout renié. J'ai décidé, pour me racheter, d'écrire. J'ai voulu un sujet fort, profond. J'ai trouvé. C'est l'histoire de la destruction d'un homme par la vie des gens, et en parallèle l'histoire de mon premier amour. Ce sera un peu un hommage à la personne. Elle lui dit: tu me dis cela comme ça? Tu ne penses pas que je puisse être jalouse? Non, Valérie, nous deux c'est tout à fait autre chose. Tu le comprendras quand tu apprendras qui est-ce. Et qui est-ce? Je peux bien te le dire, de toute façon beaucoup de gens risquent de le savoir. J'ai eu une affection très profonde pour un ami d'enfance. Voilà. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Je ne crains rien. Ce qui compte, c'est que tu m'aimes maintenant. Je ne suis pas bête et je sais, c'est qu'avant de me connaître, tu ne pouvais pas m'aimer. Elle l'embrasse au front et lui dit: mais je veux être la première à te lire. Je te le promets. Commence doucement. 2 heures par jour, c'est peu, surtout que l'on a la tête prise par des tas d'autres problèmes. temps passe, passe. Fernande s'ennuie de ce grand appartement où elle reste toute la journée seule. Et lorsque le soir son fils et son mari reviennent, elle a l'impression qu'ils ne font pas attention à elle. Elle passe des heures à marcher de long en large dans le salon. Elle perd l'appétit, maigrit, n'a goût à rien. Elle a toute la peine du monde à se lever le matin. À quoi bon ? Pourquoi faire ? Un après-midi, elle est prise d'une bouffée de chaleur, palpitation, trou noir, et tombe. Elle a de la peine à se relever. Une fois qu'elle ait repris ses esprits, elle décide de réagir et d'aller voir le médecin. Elle va voir le médecin qui est le père de Valérie. Après l'avoir ausculté, il lui dit « Physiquement, vous n'avez rien. Dites-moi ce qui ne va pas. Je ne me sens pas très bien. Je n'y vois rien. Je me sens inutile, sans affection. Pourtant, vous avez un beau garçon, un jeune homme plein d'avenir. Oui, mais il me délaisse. Il ne fait même pas attention à moi. Il est peut-être pris par ses études. Oui, bien sûr. Mais un mot gentil ne prend pas beaucoup de temps. Non, il s'est entiché d'une fille qui lui a partout, tout son temps. Et votre mari ? Oh, lui, il m'ignore. À part une période de notre vie commune, il m'a toujours ignoré. Moi, je l'ai toujours aimé, mais lui, il s'est toujours dit victime des autres. Il ne voit pas les victimes qu'il fait. C'est en quelque sorte un égoïste.
Il vous aime sûrement à sa façon.
Oui, bien sûr, mais ne le montre pas.
Vous devriez vous distraire. Vous n'avez jamais songé à travailler ?
Non, et maintenant c'est trop tard. Avec tout le chômage que nous avons.
Sortez, fréquentez des amis. Ne restez pas seul chez vous. Je vais vous donner un petit médicament pour vous décontracter. Mais c'est tout. Votre meilleur remède, c'est de sortir. Fréquentez des amis, ne restez pas seul chez vous. Je vais vous donner un petit médicament pour vous décontracter. Mais c'est tout. Votre meilleur remède, c'est de sortir.
l'après-midi qu'elle est dans sa chambre, dans le noir, assise sur une chaise. Elle entend le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Maman, c'est Pierre. Elle ne répond pas. À quoi bon? Elle a bien entendu qu'il était rentré. T'es pas. Maman. Des portes qui s'ouvrent. Toujours les pas. On a frappé à la porte de la chambre. La porte s'est ouverte. Elle ne réagit pas. Maman. Elle le voit en ombre chinoise. Il voit une silhouette sur une chaise. Il est clair. S'avance vers elle. Maman, ça ne va pas? Tu es malade? Elle ne répond pas. Il se baisse. Que fais-tu, maman, dans le noir? Tu es malade? Non? Alors pourquoi rester ainsi? Que veux-tu que je fasse d'autre? Je n'ai rien à faire. Je suis seul. Tu es seul? Dit Pierre. Oui. Et nous? Vous? Vous ne me voyez plus. Mais non, maman. Il lui prend les mains et lui les serre. Il sent ses doigts osseux dans les mains. Il en a honte parce qu'il se sent plein de vie. Il ne faut pas rester comme ça, maman. Je n'ai rien à faire. Il faut t'occuper. Pour qui? Pour toi? Pour ceux qui t'aiment? Je n'existe plus. Personne ne me voit. Mais si, maman? Toi? Depuis quand? Dit-elle. Il a honte. Car il s'aperçoit que cela faisait des mois et peut-être des années qu'il ne faisait plus attention à sa mère. Depuis toujours, je te demande pardon. Je vais m'occuper de toi maintenant. Je te le promets. Tu sais, la vie nous prend. Le temps passe et on passe à côté de beaucoup de choses. C'est terrible à dire, mais tu faisais tellement partie de moi, de nous, comme on ne faisait plus attention à toi. Pardon, pardon. Il l'embrasse et lui dit, viens, je vais prendre un thé bien chaud. Viens. Il la soulève et elle se laisse guider. C'est tellement bon de se laisser aimer par l'amour d'un autre. Pierre regarde mieux ce qui se passe autour de lui. Voit son père chez lui, distrait, qui ne fait attention à rien, ou presque, ne parle pratiquement pas, s'enferme le plus souvent possible dans son bureau pour écrire, lire, ou sort. Il se dit, je comprends maman, mais père a peut-être du souci, c'est pas facile de s'occuper d'une entreprise en temps de crise. L'entreprise semble bien marcher, les actions montent.
Mais est-ce que cela veut dire quelque chose? Vous êtes au monde, tout descendre, on ne sait même pas pourquoi. La plupart du temps, si j'osais, je lui demanderais si tout va bien, s'il n'a pas de soucis. Il a été chic avec moi. Grâce à lui, je n'ai pas à m'occuper de l'entreprise et il a toutes les responsabilités. Pauvre père, il se sacrifie pour moi et mère en partie aussi. Si j'ai un égoïste, mais que faire? On n'a qu'une vie. Lui aussi n'a qu'une vie. Et ma mère aussi. Que tout ça est compliqué. Mon Dieu, que tout ça est compliqué. Pierre décide d'être plus attentif à ses parents, surtout à sa mère. Le soir, il va discuter un moment avec elle, essaye de la distraire et deux fois par mois, il emmène au cinéma.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets.
Le film qu'elle préfère,
avec une voix qui
c'est Jules et Jim.
Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est cogné, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans tout million de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Elle était hypnotisée par cette histoire. Elle était vraiment hypnotisée. Aussi au théâtre. Cela égare un peu la mère qui reprend peu à peu goût à la vie. Il demande aussi à son père s'il n'a pas besoin d'aide pour des lettres à écrire ou lui servir de chauffeur Non, merci, mon petit. Tu as tes études. Eh, les jours passent ainsi. Il voit toujours Chantal, mais commence à la voir. Il commence à voir ses défauts.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.